Bon, je vous invite à tourner dans la parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres dans la parole, il y en a 66. Avant de vous donner le livre, j'aimerais... allez-y donc tout de suite. Exode. Ça semblait qu'il manquait quelque chose. Exode chapitre 1. Alors, il m'arrive à l'occasion d'utiliser plusieurs illustrations dans mes messages, mais ce matin, je vais en utiliser seulement une. C'est une lettre du pasteur, que le pasteur Lutzer aux États-Unis a reçue d'un couple qu'il avait marié à une certaine époque. Et dans cette lettre, la femme lui annonçait qu'elle a eu un cancer du sein, qu'on l'a opéré et qu'elle est maintenant hors de danger. Elle lui apprend que par la suite, on a dû lui enlever un disque et qu'elle souffre terriblement depuis cette intervention. De plus, il y a un mois, elle a été hospitalisée souffrant d'une pneumonie. Ça, c'est pour la femme. Le couple a eu deux enfants, dont le premier vient de perdre son travail, et suite à cela, la banque lui a saisi sa maison. Le deuxième enfant connaît plusieurs problèmes de santé. Il a dû être hospitalisé pour y subir différentes interventions chirurgicales. Et au milieu de tout cela, ils ont une belle-mère qui est souffrante et qui souffre en fait de démence et qui a besoin de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et on habite aux États-Unis et on n'a pas les moyens finalement de la mettre dans une maison de repos. Et finalement, pour couronner le tout, ils ont découvert récemment qu'il y avait une grande fissure dans la fondation de leur maison et ils doivent la faire réparer le plus rapidement possible. Tout cela au milieu de problèmes financiers que vous pouvez imaginer et l'ampleur. Frères et sœurs, la vie est dure. La vie est dure. Je pourrais vous raconter l'histoire de quelqu'un que quelqu'un m'a partagé il y a quelque temps, que son mari venait de mourir et qu'elle se retrouvait face à de grandes difficultés financières. Et suite au décès de son mari, son fils venait de se suicider et maintenant elle devait traverser cette épreuve toute seule. Frères et sœurs, la vie est dure. La vie est dure. La raison qui me pousse à vous parler de la vie qui est dure ce matin, c'est parce que je vois tellement de gens traverser des épreuves extrêmement difficiles et être si mal dans leur peau. Oui, chers amis, la vie est dure, autant pour le monde que pour les chrétiens. La vie est dure. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole. Exode chapitre 1, on est là. Nous allons lire les versets 12 et 13. Mais avant de lire ces passages, de plonger nos regards dans la parole, on va d'abord nous en remettre à notre Créateur et à notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est vraiment en toute humilité que nous nous présentons devant toi ce matin, implorant ton aide, Seigneur, pour nous enseigner. Nous voulons que l'Esprit parle à son Église ce matin. Et dans ce lieu, dans cette maison, dans ce bâtiment ce matin, Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne ici présente. Et Seigneur, je te prie que tous et chacun, Seigneur, nous puissions mettre de côté notre orgueil, Seigneur, s'il nous en reste encore, mettre notre orgueil de côté et vraiment être réceptif, Seigneur, à l'écoute de ce que l'Esprit veut nous partager. Seigneur, merci parce que tu m'as d'abord enseigné. Merci encore parce que je sais que tu veux continuer à m'enseigner à travers ce message et que mes frères et sœurs, Seigneur, puissent recevoir la portion qui leur est réservée, non seulement, non pas pour les humilier, Seigneur, mais pour les faire progresser dans leur foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous visiter ici ce matin et que tous et chacun nous puissions sortir de ce lieu avec l'assurance, Seigneur, que tu nous auras visités, que tu nous auras réconfortés, que tu nous auras encouragés à persévérer dans notre pèlerinage terrestre et que tu nous auras rappelé, Seigneur, qu'un jour tu reviens bientôt et que tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'être prêt. Et tout cela, c'est pour la gloire de ton nom que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Versets 12 à 13, nous allons découvrir que la vie des Israélites, frères et sœurs, elle était très dure, très dure. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient de place, si bien que l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. En d'autres mots, les Égyptiens les traitèrent durement comme des esclaves. Vous pensez que vous vivez des problèmes où vous travaillez. Vous pensez que votre contremaître ou que votre employeur ne vous aime pas, que vous êtes surchargé de travail, que vous êtes sous-payé. Imaginez ces Israélites ici, travaillant à partir du lever du soleil et ce jusqu'à son coucher. Frères et sœurs, est-ce que Dieu était là en Égypte avec les Israélites? Est-ce que Dieu est avec nous ce matin dans ce lieu? Est-ce que Dieu est avec vous à chaque jour là où vous êtes? Alors là, je suis bon pour partir, pour parler pendant une heure et demie. Vous m'avez motivé. J'aimerais regarder avec vous ce matin une situation pitoyable vécue par Moïse, qui, comme vous le savez, était éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Le texte biblique le décrit comme étant quelqu'un qui était le bras droit du Pharaon. Et le texte biblique, si vous le lisez, on n'a pas le temps ce matin, mais le texte biblique nous raconte aussi comment il a grandi à la cour du Pharaon. C'était un prince d'Égypte. C'était à l'époque où Moïse se promenait sur le Nil, au son de la musique entouré de jolies femmes. Puis soudainement, cet homme habitué à vivre dans le luxe et les plaisirs de toutes sortes, décide qu'il ne peut plus vivre dans ce palais et regarder son peuple souffrir sans rien faire. Il est écrit au chapitre 2, les versets 11 à 15. Chapitre 2, versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse devenu adulte. Chapitre 2, versets 11 à 15. Moïse devenu adulte alla voir ses frères de race et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un de ses frères hébreux. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il tua l'Égyptien et enfouit son corps dans le sable. Il revint le lendemain et trouva deux Hébreux en train de se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme de lui répondre, « Qui t'a établi, toi, chef et juge sur nous? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Voyant que l'affaire était connue, Moïse eut peur. Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse va s'enfuir de devant le Pharaon, et il va se retirer dans le pays de Madian où il s'assit près d'un puits. Avec comme seul décor le sable chaud du désert et sans savoir où il allait, Moïse s'arrête près d'un puits. Frères et sœurs, fermez vos yeux pendant quelques secondes et pensez à ce que Moïse a perdu. Pensez à la position sociale et l'autorité qu'il occupait dans le palais de Pharaon avec tous les avantages qu'il avait obtenus. Pensez qu'il a perdu tout espoir de pouvoir un jour prendre la place de Pharaon sur le trône d'Égypte. Et toute la formation qu'il avait reçue depuis sa tendre enfance ne lui servait plus absolument à rien. Il était là, assis dans le désert, sans savoir quelle direction prendre pour assurer sa survie. Si vous aviez rencontré Moïse ce jour-là au bord du puits, vous auriez sûrement dit que la vie était dure pour lui. Chers amis, est-ce que vous savez que c'est dans les moments difficiles que nous apprenons les leçons dont nous avons vraiment besoin pour pouvoir continuer à progresser dans la vie? Est-ce que vous êtes amen à ça?
Oui.
C'est dans les moments difficiles que nous apprenons les leçons dont nous avons besoin pour progresser dans notre vie. Ça fait 15 ans que je suis votre pasteur, ça fait 15 ans que je vous le répète, quand tout va bien, quand vous va trop bien, Dieu n'est pas le premier, il n'est pas le deuxième, des fois il fait partie de la dernière de la liste, il fait partie souvent du dernier de la liste, et Dieu provoque quelque chose dans nos vies pour nous ramener à lui, pas pour nous faire du mal, pour simplement nous ramener à lui. Ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un prestige, ça peut être la perte d'une réputation. Dieu vous connaît intimement, il me connaît intimement et il sait comment venir nous chercher pour nous ramener à lui et faire en sorte qu'on ait cette communion dont il a payé tellement le prix, cette communion que nous devons avoir avec lui. Maintenant et pour l'éternité. Nous avons un grand Dieu. Heureusement que Dieu, ce n'est pas l'homme à la matraque. C'est l'homme qui est là pour nous consoler, pour nous relever, pour nous pardonner. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et Dieu a payé un grand prix pour nous faire vivre dans la sainteté. Et Dieu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un Dieu qui se contemple de moitié-moitié. Dieu s'est donné pleinement sur la croix et il veut que ses enfants se donnent pleinement en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, ce matin, c'est un avertissement que je vous donne. C'est dans la parole. Si vous vivez dans le péché, que Dieu ne vous reprend pas, là, vous pouvez examiner votre conversion. Parce que Dieu, si vous lui appartenez, celui qui aime bien châtie bien, vous pouvez être certain que Dieu va venir vous parler. Vous pouvez être certain que Dieu va intervenir dans votre vie, comme il l'a fait dans ma vie, et comme il l'a fait dans la vie de plusieurs. Je ne connais pas votre vie intime, je ne veux pas la connaître non plus. Vous savez que si vous avez des problèmes, je suis là pour vous aider. Mais on est un grand Dieu. Et malgré les manquements de Moïse, malgré les manquements de tous ces héros de la foi dans la parole, eh bien, Dieu a toujours été là pour les relever. Vous savez que parmi la liste de tous les héros de la foi, et je ne me souviens pas s'il est mentionné, le seul où on n'a pas pris la peine de garder un de ses péchés, c'est Enoch. Tous les autres, le Seigneur nous a montré le péché d'Adam, le péché d'Abraham qu'on a vu la semaine passée, le péché de Noé, le péché de David, le péché de Samson, le péché de Gédéon. Et je me suis posé la question, pourquoi, parmi les héros de la foi, Dieu s'est permis de garder les péchés, de mettre en lumière les péchés de ceux que souvent on prend comme modèle? C'est pour nous rappeler que même si on devient des chrétiens, frères et sœurs, on demeure des êtres humains. Et que si on veut marcher dans notre vie chrétienne à partir de nos propres forces, on va s'écraser comme des crêpes. Et on va passer à côté. À partir du moment où Jésus devient notre Seigneur, devient notre Maître, il devient notre Sauveur, c'est quand je suis faible, dit Paul, que je suis fort. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Et on doit s'appuyer sur celui qui a déjà remporté la victoire pour chacun de nous. Et on n'a pas remporté des victoires, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on s'écrase. Il y a des choses qu'on n'a pas compris à la croix. On n'a pas remporté des victoires. Il a remporté toutes les victoires. C'est à nous de marcher dans ces victoires. Amen. C'est important. C'est pour ça qu'il y a des gens qui essayent de se débarrasser d'un péché qui ne sont pas capables. Vous ne serez jamais capables. On ne sera jamais capables. Il a été tenté en toutes choses. Il les a tous vaincus, nous dit la parole. Chaque péché. Alors donnons-lui. Le Seigneur t'a déjà été délivré de ça, prends-le. Moi, je ne suis pas capable. C'est une grande victoire déjà de dire ça. Hein? Grande victoire, n'est-ce pas? Et regardez ici le cas de Moïse. On va regarder quelques leçons que Moïse a apprises dans le désert et regarder par la suite pourquoi tout ce que nous verrons ensemble devrait transformer notre façon de penser et de nous amener à agir différemment à partir d'aujourd'hui. Il a dû d'abord apprendre à devenir un serviteur. Un serviteur. Et là, je m'adresse aux jeunes chrétiens. Je m'adresse à ceux qui vont se faire baptiser prochainement. Vous allez vouloir vous investir dans l'Église. La première chose, la première leçon que Dieu va vous apprendre, c'est à devenir des serviteurs. Moïse, il y avait tout ce qu'il voulait dans le palais d'Égypte. Là, il va apprendre à non pas être servi, mais à servir. Ça, c'est la première leçon que Dieu veut amener à ses frères, à ses enfants. Nous apprendre à servir au sein de l'Église. Apprendre à servir, versets 16 à 21. Chapitre 2, versets 16 à 21. Le prêtre de Madian, Jéthro, avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour donner à boire aux troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Elles retournèrent chez leur père qui leur demanda, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. » Et il a même puisé de l'eau pour donner à boire à notre troupeau. Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Moïse accepta de s'installer chez cet homme qui lui donna pour épouse sa fille Séphora. Frères et sœurs, au milieu de ces gens, Moïse va devoir apprendre à se mettre au service des autres. Ces jeunes filles ne savaient pas qu'elles étaient en présence d'un prince d'Égypte, mais voilà, Moïse va devoir apprendre à servir dans l'ombre. Il le fera pendant 40 ans. 40 ans. Cet homme qui avait tellement de capacités, qui était premier et brillant à venir, qui pouvait vous parler, passer des soirées à vous parler de ce qu'il avait accompli en Égypte, sera appelé le plus souvent à entendre ou à avoir comme auditoire pendant 40 ans des moutons. Bé, bé. C'est quoi ton opinion? Bé. Pendant 40 ans. C'est énorme, 40 ans. Là, dans le désert, il s'occupera en tant que berger à servir dans l'ombre avec des moutons. Il va apprendre aussi, non pas juste à servir, mais il va apprendre en tant que serviteur à servir avec humilité. À voir les autres comme étant supérieurs à lui-même. Nous aurons de la difficulté à comprendre ce passage, à moins de se rappeler, Genèse chapitre 46, verset 34, que les Égyptiens avaient en horreur les bergers. Nous ne parlons pas de n'importe quel travail ici, nous parlons d'un travail dont la culture du temps de Moïse considérait comme étant la plus méprisable. Et Dieu va dire pendant 40 ans, « C'est ce à quoi je t'ai appelé, Moïse. » Wow! Servir dans l'ombre et servir dans l'humilité. Moïse va apprendre certaines choses dans sa vie. Il va apprendre que lorsque vous passez par un moment difficile, vous devez être prêt à faire n'importe quoi et ne pas attendre à ce qu'on vous offre un travail qui soit à la hauteur de votre réputation ou de vos qualifications. Et je suis persuadé qu'il est arrivé à Moïse de s'être dit en lui-même, « Mais je suis bien trop qualifié pour ce travail, moi. Qu'est-ce que je fais avec des moutons? Quand à la cour de Pharaon, j'avais des gens à mes pieds. Quand je commandais des troupes, Flavius Joseph, dans un de ses livres, un historien juif, nous raconte que lors d'une invasion des Éthiopiens sur l'Égypte, c'est Moïse qui était le commandant en chef et qui a vaincu l'armée éthiopienne. Moïse, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un avec une grande connaissance, c'était quelqu'un qui avait de grandes capacités. Et Dieu l'appelle à servir des moutons, à apprendre à servir, à apprendre à le faire dans l'humilité. Parce que ça fait partie des serviteurs, des gens qui veulent être appelés à servir dans le royaume de Dieu. Dans le monde, c'est différent. Dans le monde, on a des contremaîtres qui sont payés souvent pour contrôler, pour écraser, dépendant du milieu de travail où vous êtes, écraser l'ouvrier. Et Dieu nous dit, c'est comme ça dans le monde. Hein? Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous dit. Hein? Mais dans mon royaume, c'est tout à fait différent. Le contremaître, c'est celui qui regarde tous les autres et dans l'humilité qui les sert. C'est celui qui se rend disponible pour servir les uns et les autres. Il n'est pas là pour écraser, mais il est là pour accepter souvent d'être écrasé. Injustement, mais ça fait partie de l'appel qu'il a sur lui. Frères et sœurs, lorsque vous vivez une situation désespérée, lorsque les temps sont difficiles, vous prenez le premier travail qui se présente devant vous, même si vous savez que cela est bien en dessous de vos compétences. Imaginez toute la formation que Moïse avait reçue en Égypte, tous les diplômes qu'il possédait, le brillant avenir qui s'annonçait devant lui. Il était appelé à diriger la nation qui dominait sur le monde, et il se retrouve à pratiquer le métier le plus méprisable de l'époque, c'est-à-dire celui de garder les moutons. Verset 22, Moïse a eu un fils qu'il a appelé Gershom, qui signifie « Je suis un étranger dans un pays étranger ». Moïse habitait maintenant dans le pays de Madian, il était marié, il avait eu d'autres enfants qui s'étaient ajoutés à sa petite famille. Et après 40 ans à s'être occupé des moutons, il ne prévoyait pas quitter cette région où il avait travaillé si dur pour réussir à joindre les deux bouts. Moïse, frères et sœurs, peu importe ce qu'il faisait, il s'était installé dans une petite routine. Et là, Dieu allait l'appeler. Dieu allait se révéler à lui. Frères et sœurs, avant de porter un jugement sur Moïse qui ne veut pas partir, qui va trouver toutes sortes de raisons pour ne pas partir, si je vous disais ce matin que Dieu vous appelle tous à le servir, seriez-vous prêts à abandonner votre routine? Seriez-vous prête à laisser votre maison? Seriez-vous prête à laisser votre emploi? Seriez-vous prête à subir les moqueries des gens qui vous traiteraient de fou parce que vous partez pour servir le Seigneur dans un pays étranger, dans une autre région de la Belgique? Tout cela pour la gloire de Dieu, avec un salaire qui est moindre que ce que vous gagnez? Ou si, frères et sœurs, votre routine, les briques de votre maison, votre voiture, votre compte de banque, vous empêcherez de dire « Oui, Seigneur, pour la gloire de Dieu. » je peux vous poser la question ce matin. Parce que quand Dieu nous a appelés à venir en Belgique, il m'a pris 2 semaines pour dire oui. Vendre ma maison, puis de voiture, puis accès à ma piscine. Je n'avais pas de dette. 4 enfants. Le dernier n'avait pas 2 ans. Facile en prière à dire, Seigneur, utilise-moi. Ouais. Frères et sœurs, avant de juger Moïse, il faisait 40 ans qu'il était installé à Madian. 40 ans. Et Dieu l'appelle à tout quitter. Pour revenir dans un pays où c'était cassé la, excusez-moi, l'expression, la gueule. Il y a une autre leçon que Moïse a appris comme serviteur. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous avez besoin du soutien des gens qui sont autour de vous. Ça, c'est une des raisons pourquoi Dieu a donné l'Église. Nous avons besoin des uns des autres. Quand arrivent les difficultés, pour être soutenus. Imaginez Moïse seul au milieu de ce désert, sans famille pour le soutenir. Imaginez, qu'aurait-il pu faire sans le soutien des membres de la famille, de sa famille? Dieu veut nous enseigner que pendant les moments difficiles, il n'est pas bon de s'isoler, que nous avons besoin des uns des autres et que nous avons à apprendre à nous aimer les uns les autres, non pas quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Si on n'a pas appris à nous aimer les uns les autres quand tout va bien, on sera incapable de nous aimer les uns les autres quand tout ira mal. Parce que ça va nous demander double d'effort pour aimer les gens qui se trouvent dans des situations difficiles. On ne sera pas capable de payer le prix. Frères et sœurs, si on n'est pas capable de payer le prix, de nous aimer les uns les autres quand tout va bien, à combien plus forte raison on ne sera pas capable d'en payer le prix quand tout va aller mal? Parce que ça va nous demander de l'investissement personnel.
Troisième chose que Moïse a dû apprendre, c'est celle de faire confiance. Verset 23-25. Regardez ce qui est écrit. Longtemps après, frères et sœurs, longtemps après, je trouve ces deux mots magnifiques au début du verset. Longtemps après, 14 600 jours après qu'il a quitté l'Égypte. Longtemps après, nous dit le texte. 14 600 jours. Plus tard. Alors, on peut dire que ça commence à faire longtemps, non? Longtemps après, mais que faisait Dieu pendant toutes ces années? Est-ce que Dieu continuait toujours à former Moïse ou s'il avait tout simplement démissionné? Non, Dieu était toujours vivant. Dieu était toujours là. Frères et sœurs, si vous avez l'habitude de souligner des choses dans votre Bible, je vous invite à souligner 2 verbes que nous retrouvons dans le verset 24 ici. Verset 24. Dieu entendit les gémissements. Vous vivez ce matin quelque chose de difficile, vous gémissez, Dieu entend vos gémissements ce matin. Vous dites amen à ça? Dieu entend vos gémissements ce matin. Soulignez-le. Et le 2e verbe dans le verset 24, et il se souvient de l'alliance qu'il a faite. Il se souvient de l'alliance qu'il a faite en Jésus-Christ. Dieu vous entend, Dieu se souvient. Il nous arrive parfois de penser que Dieu pourrait avoir oublié des choses. Il a dit, mais Dieu n'oublie pas. Et c'est aussi vrai, frais dans sa mémoire aujourd'hui, que ça l'était il y a 5 ans, que ça l'était il y a 100 ans, que ça l'était il y a des siècles. Non seulement Dieu nous entend, non seulement Dieu se souvient, mais verset 25, Dieu voit. Dieu vous voit ce matin. Dieu voit votre misère ce matin, si c'est le cas. Dieu a entendu votre prière ce matin. Et Dieu se souvient de la prière que vous lui avez adressée. Et je rappelle ce qui est écrit dans les psaumes. Si vous n'avez pas la force de prier parce que vous êtes trop dans la souffrance, que tout ce que vous pouvez faire, c'est de verser les larmes. Le psalmiste nous dit que Dieu entend la voix de vos larmes. Qu'est-ce qu'il veut dire pendant? Ce que vous n'avez pas, ce qui n'a pas été capable de sortir de votre bouche, il se trouve dans vos larmes, parce que votre souffrance est tellement grande. La Bible nous dit juste un peu plus loin, le psalmiste, qu'il recueille vos larmes avec son outre. Il n'y a rien qui est perdu. Même quand vous n'êtes pas capable d'exprimer un seul mot, dans vos larmes, Dieu est capable de lire ce que vous voulez lui dire, que vous n'avez pas été capable de faire parce que vous étiez trop triste, trop affecté. Frères et sœurs, Dieu se souvient. Dieu entend. Et Dieu voit la condition de mon cœur ce matin. pense que tout le monde a vécu un jour ou l'autre dans le désert. Israël a vécu dans le désert. Moïse a vécu dans le désert. Jésus a été conduit dans le désert. Et j'ai aussi été, pendant un certain temps, différents moments, conduit dans le désert. Et je dois dire que c'est dans le désert que Dieu m'a parlé de façon à me transformer. C'est dans le désert qu'on entend mieux la voix de Dieu, parce qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision. C'est le silence total. Dieu nous amène dans le désert pour que nos oreilles soient branquées sur lui comme les antennes de sa télé, pour entendre ce qu'il veut nous dire. Et encore une fois, pas pour nous démolir. Quel Dieu nous avons, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ce que représente le désert? Le désert correspond à un temps de solitude. C'est-à-dire un moment de désespoir parce que chaque jour ressemble à celui d'hier. Que demain ne garantit pas que celui d'hier sera meilleur qu'aujourd'hui. Le désert est aussi un temps pour réfléchir à être reformé. C'est ça le désert lorsque les temps sont durs. Qu'est-ce que Dieu fait dans le désert? Est-ce qu'il nous abandonne dans le désert? Regardez ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 32. Tournez avec moi dans Deutéronome chapitre 32 pour ceux qui ont compris. Deutéronome chapitre 32. Versets 10 et 11. Regardez ce qui est écrit concernant les Israélites qui se trouvaient dans le désert. Il est écrit que le Seigneur a trouvé Israël au désert dans une solitude au milieu des hurlements des chacals. Il l'a entouré, il en a pris soin, il a veillé sur lui comme la prunelle de son œil. Dieu veillait pareil à l'aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler ou qui étend ses ailes au-dessus d'eux. Il les retire, s'ils tombent. C'est ce que le verset nous dit ici. Frères et sœurs, Dieu dit, j'étais dans le désert. Je marchais avec vous durant tout ce temps. Lorsque vous n'aviez pas d'eau et lorsque vous aviez besoin de nourriture, j'étais là. Je ne vous ai pas oublié pendant la période difficile que vous avez traversée. Frères et sœurs, lorsqu'un aigle construit son nid, il utilise des branches pointues. Parce que c'est assez haut, hein? C'est assez épeurant. Hein? C'est le plus haut possible. Hein? Il va prendre des branches pointues, il va faire en sorte de toutes les enfiler derrière. Là. Et il va faire le fond, il va tapisser le fond. Hein? Nous, on fait des chocs de ciment. La maman aigle et le papa aigle, ce qu'ils vont faire, ils vont aller chercher des petites pierres, ils vont en tapisser le fond du nid. Et après cela, eh bien, la maman, elle va recouvrir le fond d'une couche de plumes. C'est-à-dire, elle va y mettre un matelas pour, finalement, recevoir les petits. Ce qui va rendre le nid doux et confortable, et au point où les petits, finalement, ne voudront pas, ils auront beaucoup de difficultés à quitter ce nid parce qu'ils y sont trop bien. Alors, arrive le moment où la maman va pousser les petits à quitter ce nid. Ce que la mère va faire, c'est assez significatif. Elle va commencer par enlever les plumes qui couvrent le fond du nid. Elle va laisser apparaître les petites pierres et les branches qui ont servi à construire le nid. Les petits qui se sentaient tellement confortables et en sécurité dans leur nid se demandent ce qui se passe parce qu'ils commencent à ressentir le courant d'air et qu'ils constatent que le nid bouge constamment pour qu'il n'ait plus de l'air. Et là, ils commencent à comprendre que s'ils continuent à rester dans le nid, ils risquent de mourir. Et là, ils vont se lancer pour voler sous le regard de leur mère. Comme Dieu le dit ici au verset 11, il y a la mère par précaution. Elle voit le petit. Elle est déjà sur un autre rocher. Elle voit le petit qui se lance. Elle le voit. Alors, elle voit qu'il descend. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre ses ailes. Il y en a, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 mètres par les ailes. Hein? Et se place en dessous de ses petits. Comme un avion, bien vous déposez sur les ailes et les ramène à l'envol. Jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler par terre. Extraordinaire. Et Dieu nous dit, il fait la même chose avec nous, verset 11. Dieu peut comparer, on peut comparer l'église à un lit. Souvent, on est tellement bien dans nos églises. tellement bien, tellement confortable, c'est tellement douillet. On a de la difficulté à sortir de notre coquille, à sortir de notre église. On voit de nos propres erreurs. Allez voir ceux qui sont en difficulté. Allez voir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ici, il dit, verset 11, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et Dieu, quand même, aide. Quand tu vois qu'on manque d'essence, quand tu vois qu'on manque d'assurance, et qu'on va s'écraser, il est là pour nous porter. Amen. Il nous ramène au bataille. Un message en courant, une formation pour recevoir. Et tout le temps, tu ne reviens pas prendre tes propres ailes, et tu vois toi tes propres ailes dans le ministère à laquelle tu es. C'est pas extraordinaire, cette image de l'aile, frères et sœurs. Une belle leçon, Dieu nous donne à travers l'aile. C'est vrai que l'Église, c'est un nid, c'est censé être un nid d'amour. C'est vrai qu'on peut aussi trouver tellement bien. On peut oublier tout ce qui est autour de nous, comme les bébés dans les bébés aigles, les aiglons dans leur nid. Dieu dit, c'est ce que je fais lorsque vous traversez une période difficile dans les airs, j'étais avec vous, je vous entendais, je vous voyais. Et il est facile, frères et sœurs, de faire confiance à Dieu lorsque le buisson est enflammé. Lorsque l'eau coule, lorsque la montagne est secouée, lorsque l'argent ne manque pas et que votre employeur vous fait des éloges, et que vous, surtout, vous avez été nommé, et on va travailler. Mais il est difficile de nous faire confiance dans le désert, parce qu'il n'y a que du sable autour de vous, que vous vous sentez seul, et que vous n'avez aucune nouvelle de qui que ce soit. Vous vous dites en vous-même, je n'ai aucune raison de penser que Dieu est ici. Mais Dieu est là, il est avec nous, il est avec moi, il est avec vous. Il y a une quatrième leçon que Moïse va rendre, c'est celle de l'obéissance. C'est probablement une des plus difficiles. Moïse a dû donc apprendre à devenir un serviteur, il a dû donc apprendre à faire confiance à Dieu, il a dû donc apprendre, il va aussi apprendre à obéir. Chapitre 3, le buisson qui est en feu, c'est-à-dire que Dieu se manifeste et il dit, Moïse, je t'appelle à retourner en Égypte. Moïse se tient là debout, qu'est-ce qu'il lui dit au verset 5? Oh, tes sandales, dit Dieu. De tes pieds, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quand vous commencez à méditer ce passage-là, vous pensez que c'est juste sur la montagne, c'est juste où Moïse avait les deux pieds que c'était une terre sainte? Dieu est partout. Là où on met nos pieds, on devrait s'appeler que Dieu son regard sur nous. Il se tient là sur une terre sainte en train d'argumenter avec Dieu, se demandant pourquoi il devrait aller en Égypte. Dieu dit à Moïse, Moïse dit non. Dieu dit, j'ai les capacités de te venir en aide, Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne me dérange pas, je ne veux pas retourner en Égypte. Il craignait d'échouer, il avait peur de chance, du changement et de l'inconnu, et il va trouver des prétextes. Bon, les prétextes, je ne les répète pas, vous les avez entendus à travers plusieurs messages. Il est intéressant de voir ce que Moïse dit au Seigneur au chapitre 3, verset 3. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour en faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je, frère de sang? Mais ce n'est pas la question de notre siècle. Qui suis-je? J'ai connu des femmes qui ont abandonné leur mari, leurs enfants, juste pour savoir qui elles étaient. J'ai connu des maris qui ont quitté leur femme pour savoir simplement qui ils étaient. Lorsque j'étais jeune, dans ma génération, la grande majorité des gens savaient qui ils étaient. Et ils vivent dans un monde différent. Et les gens aujourd'hui se posent la question, qui je suis? Qui je suis? J'ai lu un livre qui traitait de l'image de soi, qui traitait du cas d'une très jeune fille. Elle ne voulait pas se regarder dans un miroir parce qu'elle pensait qu'elle était elle. Et en fait ça, vous distribuez une feuille, sans que vous martiez votre nom, et que de façon tout à fait anonyme, que vous puissiez répondre à la question, est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que tu te trouves belle? Si tu avais quelque chose à changer sur ton corps, qu'est-ce que ce serait? C'est intéressant, ça, hein? Alors moi, je suis nouveau avec les yeux verts, j'aimerais avoir les yeux bleus. Moi, j'ai un gros nez, j'aurais aimé avoir un petit nez. Moi, je suis un homme, j'aurais aimé être une femme. On voit aujourd'hui, là, ça change. Hein? Les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. Problème d'identité, il y a d'en perdu dans le genre de l'identité. faire de son image en vie, faire de sa ressemblance celle qui est en Jésus-Christ. Et à travers la nouvelle naissance, c'est ce qu'on retrouve. Notre image perdue, notre identité, notre ressemblance, c'est-à-dire de vivre, de marcher comme Jésus-Christ vivait et marchait. Nous avons besoin d'une théorie de l'image de soi qui est beaucoup plus forte que ce que nous connaissons, qui se trouve dans les textes que nous avons sous les yeux. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir mes enfants d'Égypte, d'Israël, d'Égypte? Et Dieu dit, il ne lui dit pas qui il est. Il lui dit, la réponse au verset 12, je serai avec toi. Qui vous êtes en Jésus-Christ, frères et sœurs? Vous voulez savoir? Psaume 139, 14. Vous voyez dans le psaume 139, 14. 139, 14. Et j'espère que vous allez le graver, l'imprimer sur votre cœur ce matin. Si vous cherchez à savoir qui vous êtes à partir des principes du monde, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous cherchez à savoir qui vous êtes à partir des principes du monde, vous aurez toujours peur de vous regarder dans un miroir, vous ne serez jamais satisfait de ce que vous avez. Jamais. Vous allez vous faire remonter tout ce que vous pouvez faire remonter. Si Dieu est avec vous, vous saurez qui vous êtes et vous pourrez dire ceci. Comme notre Seigneur, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous êtes des créatures merveilleuses pour le Seigneur.
Amen.
Et j'espère que vous ne faites pas juste lire ce matin, le juste vivre par la foi. Prenez-le par la foi, ce verset. Peu importe ce qui m'arrive, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Je suis tellement merveilleuse pour toi que tu es mort, tu as donné ta vie pour moi. C'est ça le christianisme, c'est ça le vrai christianisme, c'est pas la religion. Dieu qui tient l'univers dans ses mains décide de se faire homme dans la personne de Jésus-Christ et il dit pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour que tu puisses passer l'éternité avec moi, je me sacrifie. C'est extraordinaire, ça. Et là, si on veut tout entendre le reste, mais on peut l'entendre, c'est par grâce. Tu mérites rien. Tu mérites l'enfer, je te donne le ciel. Tu mérites même pas que je sois avec toi le temps que tu es sur la terre, mais je suis avec toi, je l'ai promis. Mon esprit habite en toi. Vous êtes une créature merveilleuse pour le Seigneur. Vous êtes des minables et des moyens que rien pour le diable, pour l'ennemi de nos âmes, mais pour le Seigneur, vous êtes une créature merveilleuse. Dieu merveilleux, dit Isaïe. Dieu puissant. Dieu vous a donné sa puissance par son Saint-Esprit. Si vous vivez selon les principes du monde, et toujours vous regardez dans un miroir, vous êtes quasiment, vous ne serez jamais, jamais satisfait. Jamais. Et vous allez travailler dans l'Église, vous allez œuvrer dans un ministère de l'Église par vos propres forces. Vous allez vous écraser. Et vous ne serez pas capable de regarder vos frères et vos sœurs comme étant supérieurs à vous-même. Parce qu'au plus profond de vous-même, sommeil contre nos prêtres et contre nous, qui veut diriger les autres et qui veut diriger sa propre vie. La vérité vous rendra libre, dit Seigneur. Libre de penser comme le premier Adam, mais libre de penser comme le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus. Amen. Il y a un Dieu merveilleux. Il nous dit, nous sommes des créatures merveilleuses. Chapitre 4.1, nous apprenons que Moïse continue d'argumenter avec Dieu. Moïse répondit, ouais, mais écoute bien, Seigneur, ils ne croiront pas. Ils n'écouteront pas ma petite voix. Vous savez pourquoi Moïse parle ainsi? Vous savez pourquoi Moïse parle ainsi? Parce que Moïse, même après 40 ans, il est toujours en colère, il est amer. Et quand il est intervenu, et les frères hébreux, on les rejette. Pas parce que c'est pas la parole facile, hein? C'est prétexte. Il y a combien de gens dans l'Église qui ne servent plus parce qu'ils ont entendu une parole amère, parce qu'ils n'ont pas reçu, finalement, la louange qu'ils s'attendaient. Oui, ils m'entendront pas, ils n'écouteront pas. Seigneur, je ne veux pas que je t'écoute. Seigneur, il ne nous envoie pas pour que les gens nous écoutent. Le Seigneur, il nous envoie pour que les gens puissent écouter Dieu par à travers nous. Quelle différence? Il ne faut pas de miracle, non? C'est Dieu qui fait des miracles. On ne fait pas de conversion, nous. C'est Saint-Esprit qui convertit. Amen. Après 40 ans, il ne digérait pas encore d'avoir été rejeté par son peuple. Il avait tenté quelque chose à l'époque, et ni les gens, ni Dieu ne l'avaient aidé. Et Moïse se disant lui-même, je ne vais quand même pas retourner en Égypte. Seigneur, si tu m'avais demandé cela alors que j'étais célibataire, ça aurait été plus simple, peut-être, pour moi de dire oui, d'accepter les premiers d'hommes. Mais maintenant, Seigneur, écoute, je suis marié, j'ai des enfants, je suis dans cette région, je suis installé, depuis 40 ans. Et tu me demandes aujourd'hui de tout quitter, de partir, Seigneur. Aie pitié de moi, demande-moi pas de quitter tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Vous hésitez à partir, le Seigneur. Vous hésitez, vous laissez le Seigneur. Le Seigneur vous rappelle qu'il a quitté le ciel de gloire pour venir visiter la grande poubelle de la terre. Il y a même deux lieux sur cette terre, salis par le péché, corrompu par la méchanceté des hommes, pour faire de nous des saints. Dieu merveilleux, nous avons. Et ici, Moïse continue à argumenter avec Dieu sur cette question parce qu'il ne voulait pas à nouveau tenter l'expérience. Il avait tellement peur d'être rejeté. Il ne voulait pas l'entendre. Il avait déjà essayé à l'époque de les aider. Ça n'avait pas marché. C'est vrai, frères et sœurs, mais à l'époque, c'était à partir de ses propres forces qu'il avait essayé. Dieu ne nous demande pas des gens. Dieu ne nous demande pas de tuer les gens. Il nous demande de mourir à nous-mêmes. Quelle est la différence entre le sacrifice de Jésus et le vrai christianisme et toutes les religions? Toutes les religions sont prêtes à tuer les gens pour qu'ils se convertissent à leur religion. Et Jésus a accepté de mourir pour les gens, pour que les gens puissent se convertir à lui. Quelle différence, n'est-ce pas? Pas pour rien que les croisades, hein? Pour augmenter le nombre de personnes dans nos religions. Jésus a dit, je ne tuerai pas personne pour que les gens se convertissent à moi. Moi, je vais mourir pour que les gens se convertissent à moi. Moi, j'ai été exempt. Frères et sœurs, c'est ça l'amour. On peut rendre gloire à Dieu aujourd'hui que le Seigneur est toujours comme un dictateur. Il est vraiment comme un rédempteur, un sauveur merveilleux. Un sauveur merveilleux, je crois ça, dit le texte. Chapitre 4, 2. Dieu dit, qu'est-ce dans ta main? Il répondit, une verge. Dieu lui dit, jette-la par terre. Il la jette par terre et il devint un serpent. Et Moïse sera capable de faire des miracles avec cette verge. Et la verge, dans la parole de Dieu, ça, c'est un symbole de puissance. Un symbole de puissance. Remarquez que le bâton, il va partout où Moïse va aller. Au moment où il va devoir traverser la mer rouge, il lèvera le bâton, il étendra la mer, et la mer se prendra en deux, dit le texte biblique. Lorsque le peuple cherchera querelle parce qu'il avait soif, Moïse va frapper le rocher avec le bâton, et il en sortira de l'eau parce que le bâton de Moïse était devenu le bâton de Dieu. Et là, l'enfant que vous êtes, l'homme et la femme que vous êtes, à partir du moment où vous vous laissez utiliser par Dieu, eh bien, vous n'êtes plus simplement qu'un être humain, vous êtes un enfant de Dieu à travers lequel Dieu va accomplir des miracles. Et j'espère que vous dites amen à ça ce matin. C'est au baptême que le don spirituel de l'enfant de Dieu se manifeste. Vous savez pourquoi? C'est pas avant. Parce qu'avant, vous ne faites pas partie des membres de l'Église, vous ne faites pas partie du corps de Christ officiellement. Mais, je ne sais pas quand je dis au Seigneur, c'est pas, je sais faire la nuance pour me faire prendre, pour me dire ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Quand vous arrivez dans une salle et que vous confessez le nom de Jésus-Christ, que vous vous enroulez à travers votre baptême, que c'est la décision, à travers votre baptême, vous prenez la décision de vous enrouler dans l'armée de Jésus-Christ, porter l'étendard de Jésus-Christ, de proclamer l'Évangile. Vous allez maintenant être associé à l'Église locale. Vous faites partie de l'Église universelle, pas de problème, mais vous allez être associé à l'Église locale. Dieu vous a donné des dons. Des dons que vous avez reçus au moment où vous avez accepté le Seigneur. Mais qui vont se manifester après votre baptême. Pourquoi? Parce qu'à travers le baptême, vous êtes appelé à participer en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes appelé à participer activement à l'Église. Et ce qui est bien, ce qui est béni, c'est pas vous qui allez découvrir quel don vous avez, c'est les membres de l'Église qui vont découvrir. Moi, quand quelqu'un vient me voir et dit, « Pasteur, j'ai reçu tel don », je dis, « Continue à prier là-dessus. » quand les gens, 1, 2, 3, 4, 5, viennent te voir, ils disent, écoute, ce frère-là, cette soeur-là, est vraiment ce don-là, et là, on va commencer à tendre l'oreille en tant que membre du conseil. Dieu appelle, nous appelle tous à le servir. Mais pas là où on veut, mais là où il veut. Je vais faire une confidence, frères et sœurs. Dieu ne vous appellera jamais à le servir là où vous avez une capacité à le servir. À 15 ans, j'ai déjà fait plusieurs reprises. La seule chose que je ne voulais pas faire dans ma vie, c'était pasteur. J'ai tout fait pour échapper à ce ministère. Pourquoi? Parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Parce que les exprimer, c'est compliqué. La peur pour rien. La critique pour rien. La juge de tout et de rien. Le Seigneur m'a montré que si ce n'était pas le pasteur, tout ce que je fais, ce serait ma propre gloriole qui ne serait pas dans ce ministère. À ce sens, c'est pendant vos forces que Dieu vous disait. Dans vos faiblesses, c'est comme le Paul le dit, c'est dans vos faiblesses que vous êtes forts. Et à partir de là, vous apprenez que vous pouvez tout à celui qui vous fait. Amen. Ce que nous avons ici, c'est le fait que Moïse devra apprendre la leçon de l'obéissance. Et lorsque la vie est dure et que vous êtes dans le désert, vous ne le savez pas, mais Dieu pourrait avoir pour vous de nouveaux projets. Et lorsqu'il vous appelle, peu importe jusqu'à quel point cela peut vous déranger, peu importe jusqu'à quel point vous êtes dans votre routine, vous allez devoir partir. C'est ça, le test de l'obéissance. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est avec nous dans les situations difficiles, qu'il nous voit, qu'il nous entend, qu'il nous regarde et qu'il nous répond. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre. Ça ne veut pas dire que je lui demande à 11h à 23h le soir qu'à 24h il va me répondre. Ça a pris 400 ans pour répondre au Père d'Israël. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il entendait les cris. Il entendait les gémissements. Mais il avait aussi été fidèle à sa parole, puisqu'il avait déjà prophétisé que son peuple serait conduit en Égypte et que ce serait probablement autour d'une période de 400 ans. J'aime bien cette histoire en Genèse chapitre 39 concernant Joseph. Les deux verset 2. L'Éternel était avec lui si bien que tout lui réussissait. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Et vous connaissez la suite et jusqu'à quel point Joseph a été faussement accusé et jeté dans un donjon. Et vous savez ce qu'il dit au verset 21. Pourtant, là aussi, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté en lui obtenant la faveur du commandant de la forteresse. Wow! Lisez la vie de Joseph. Il a discuté et trouvé quelque chose de mal. Et s'il y en a qui a souffert dans l'Ancien Testament, eh bien, on peut étiqueter Joseph, on peut le mettre en haut sur la liste. Quand on vous prêche, frères et sœurs, vous voulez connaître un faux prédicateur, quand on vous prêche, que si vous acceptez le Seigneur Jésus, c'est le bonheur parfait. Vous n'aurez jamais de problème. Que vos problèmes, ils sont réglés. Que vous ne serez jamais malade. Eh bien, ça, si vous entendez ce message-là, sortez de l'église et partez, trouvez-vous un autre, parce que ça, c'est un faux prophète, c'est un faux enseignant. Mon défi, lisez toutes les épîtres à partir de Jésus dans les évangiles. Les vrais serviteurs de Dieu qui ont voulu se tenir debout pour le Seigneur ont tous été persécutés et ont, sont tous passés par la souffrance. Et c'est une promesse du Seigneur. Celui qui voudra me suivre fidèlement sera persécuté. Et il faut passer par beaucoup de souffrances pour rentrer dans le royaume de Dieu. Facile, lancer les manger de bonbons. Un petit biscuit ici, un petit lavande là, un petit suçon ici. Ici, c'est pas suçon, hein, c'est suçon. Compliqué, il y a deux continents. Mais... Imagine. Pas ça. Tu veux accepter Jésus-Christ? J'ai passé mon dimanche après-midi, la semaine passée, à parler de l'évangile un peu de temps. Et il y a des péchés qui devraient renoncer pour accepter le Seigneur. T'es vraiment honnête avec moi. Et j'ai dit, écoute, je ne suis pas ici pour signer un contrat aujourd'hui. Réfléchis. Le Seigneur ne veut pas avoir les amis convertis, les amis païens. Tu restes avec lui ou tu les poses avec lui, et quand tu auras fait ton choix, tu sais ce à quoi tu vas renoncer. Tu vas avoir la bénédiction à travers la souffrance. Parce que c'est son béni ici dans Joseph, dans chaque verset 21. Tu veux quand même être béni dans la souffrance? Tu veux vraiment sentir la présence de Dieu dans la souffrance? Bien, sois entier. 100%, que ta conversion elle soit véritable. Pas j'apprends de Dieu, j'apprends du monde, puis je marche avec ça. Et on a l'exemple de Joseph ici. Béni, Dieu étendit sur lui sa bonté. Dieu est avec nous lorsque tout va bien, Dieu est avec nous quand tout va mal. Dieu est avec nous lorsque nous sommes chancelants dans notre foi et lorsque nous sommes accusés faussement de certaines choses et que nous ne pouvons rien faire. Dieu est aussi avec nous dans les moments difficiles, frères et sœurs. Il est là. Regardez les esclaves, ils sont là, ils n'ont aucun moyen de pouvoir améliorer leur qualité de vie. Et pourtant, ils crièrent à Dieu, nous dit le texte. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va entendre, Dieu va répondre et Dieu va agir. Amen. Vous avez des difficultés, vous êtes dans une situation difficile ce matin, criez à Dieu. D'abord, il faut commencer par prier. Crier à Dieu, c'est prier, hein? C'est prier avec souffrance. On est pris, quoi. Et là, criez à Dieu. Dieu vous entend. Dieu va répondre. Et Dieu va agir. Marc chapitre 10, verset 24. Tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez que vous avez reçu, et cela vous sera donné. Si vous demandez à Dieu, uniquement pour sa gloire, tout ce que vous demandez pour sa gloire, Dieu va vous le donner. Je vais vous dire ce que j'ai dit à l'étude biblique. Si Dieu vous le donne pas, examinez la condition de votre vie. Regardez dans quelle condition se trouve votre vie. S'il y a une petite tache d'ombre dans votre vie, c'est suffisant pour que le tout ne passe pas. C'est une promesse du Seigneur. Tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez par la foi que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Le problème, il n'est jamais du côté de Dieu, il est de votre côté. Et je ne le dis pas pour vous décourager, je vous le dis pour vous encourager, pour vous amener à vous examiner si Dieu ne répond pas à vos prières. Parce que le but de Dieu, c'est de répondre à vos prières. Quand Dieu répond à vos prières, c'est que vous avez, c'est une révélation encore plus forte qu'on vient des vivants. Et c'est une spécifique dans vos prières. Vous vous souvenez de cet exemple de Hudson Taylor? Qui se souvient, j'avais raconté l'histoire de Hudson Taylor? Ok, je vais la raconter. Bien. Rapidement. Hudson Taylor, il est en mission en Chine. Et là, il crie dans la brousse. Et il doit marcher des kilomètres et des kilomètres. Et ça fait des semaines qu'il crie à Dieu pour avoir un vélo. Il a fait connaître son besoin uniquement à Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui a abandonné l'Angleterre avec tout son confort. Qui est même persécuté par les Anglais et les chrétiens anglais qui sont en Chine parce qu'il y avait une partie qui était une colonie anglaise. On traite de fou d'avoir tout quitté. Et il prie pour un vélo. Et à un moment donné, il est en prière, il ne comprend pas. Il cherche ce qu'il a fait de mal dans sa vie parce que Dieu ne répond pas à sa prière. Parce que ce côté-là, c'est quelqu'un qui fonctionnait en fonction des promesses de Dieu, qui vivait selon la parole de Dieu. Et il entend le Saint-Esprit qui lui dit, « Mais j'ai des milliers de vélos à te donner. » Est-ce que c'est ça? Oui. Écoute, tu ne vas pas encore faire connaître la marque, ni la couleur, ni la grandeur du cadre. J'en ai au moins 10 000, je ne sais pas lequel t'envoyer. Et il se met à genoux, puis il pleure. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je vais avoir un vélo, telle grandeur du corps, telle couleur et telle marque. Deux semaines après, il ouvre la porte de sa maison, il y en a un qui compte sa maison. Pas de facture, rien, c'est pas qui l'a donné. Mais le vélo, exactement ce qu'il avait demandé au Seigneur, était là. Et frère de soeur, ça augmente pas la mesure de votre foi, ça. Vous l'avez pas fait connaître à personne. Vous l'avez pas testé. Ouais, si tu connais quelqu'un qui a un vélo, hein. Non? Moi et le Père. Hey, c'est pas fortifiant, ça, dans votre foi. Tu demandes un rouge, puis donne un bleu, mais là. Mais exactement tous les détails, il l'a donné. Je sais pas si ça fortifie votre foi ce matin. Moi, en tout cas, ça fortifie la mienne. Seigneur est bon, frère, c'est ça. Rapidement. Je vais terminer avec le Seigneur Jésus. Pendant 40 ans, Moïse est allé à l'école de Dieu. Pendant 40 ans, Dieu lui a enseigné à servir, à être humble, à lui faire confiance, à lui à l'obéir, même si c'était dérangeant. Frères et sœurs, le palais d'Égypte n'aurait jamais pu lui enseigner cela. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous demeurez dans votre confort, jamais vous pourrez écouter ces enseignements que Dieu vous donne. Jamais. jamais si Moïse était resté en Égypte avec tous les avantages qu'il avait jamais l'air entendu avoir. Il fallait qu'il parte de l'Égypte. Il fallait qu'il quitte son confort. Il fallait qu'il vive un moment de solitude important pour se remettre en question. Pour commencer à réfléchir sur sa situation en tant qu'homme. Et réaliser à un moment donné que c'est un but que Dieu a fait. Telle œuvre bien particulière. Frères et sœurs, c'est la même chose. J'espère que vous y croyez du plus profond de votre cœur. Et parce que je suis passé par là, je sais le combat qu'il y a à abandonner notre confort pour répondre à l'appel de Dieu. Je sais ce que c'est. Comme Moïse, c'est déchirant. Comme Moïse, on trouve tous les prétextes pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Quand les enfants ont commencé leur primaire, là, je ne peux quand même pas les faire sortir de cette école-là. Elle est dans un autre pays qui a un autre système d'éducation. Les prétextes comme Moïse. Frères et sœurs, le désert n'est pas une sorte de purgatoire, si je peux m'exprimer ainsi, mais plutôt un endroit où Dieu veut vous préparer à participer à un nouveau projet. Et pour cela, il va changer votre cœur. Pour changer votre cœur, il va vous amener pendant un certain temps dans le désert. Pour que vous puissiez concentrer uniquement sur sa parole. Prendre un temps avec sa parole, la parole de Dieu, pour pouvoir entendre Dieu vous parler. Vous ne seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à traverser certaines difficultés, si Dieu n'avait pas l'intention de vous utiliser pour la gloire, et pour sa gloire et pour votre bien. Il est difficile pour moi de le dire, parce que lorsque la vie est dure, il n'est pas évident de voir les raisons pour lesquelles Dieu nous permet de vivre ces choses. Mais il veut que nous nous rappelions qu'il est avec nous. En fait, je pense que le meilleur exemple reste le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ses conditions de vie n'ont pas toujours été faciles. On a parlé en mal de lui. On a sali sa réputation, il a été abandonné par ses amis, on a porté de fausses accusations contre lui, il a été traité et craigné injustement devant les tribunaux, il a été méprisé, il a été abandonné par Dieu. Qui peut lever la main ici ce matin et dire que Dieu l'a abandonné un jour? Lui, tu l'as levé la main ce matin? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a accepté? Par amour pour lui. Il a accepté pour la première fois de toute éternité d'être séparé de son Père. Parce qu'à ce moment-là, il portait le péché de l'humanité sur ses épaules. Pas de péché. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte, attaché à une telle mort. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 4, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du Dieu, du trône de Dieu. Pardon. Pensez à lui, pensez à la façon dont il a supporté telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous ne vous lassez pas, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous découragez pas. D'un côté de la croix, il y a la crucifixion. D'un côté de la croix, il y a la crucifixion. De l'autre, frères et sœurs, il y a la résurrection. Il n'y a rien qui finit à la croix. L'histoire de Dieu se poursuit pour l'éternité, pour ceux qui prennent une décision pour lui. Frères et sœurs, si elle est dure pour moi, permettez-moi de vous dire ceci, c'est que vous êtes ici en tant que croyant, et que ce que vous vivez est le pire moment que vous avez eu à traverser dans votre vie, rappelez-vous que le meilleur reste à venir. Car une place vous attend là-haut dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Et si vous êtes ici ce matin, que vous n'êtes pas croyant, et que la vie est dure pour vous en ce moment, rappelez-vous que c'est le mieux que vous pouvez espérer. Parce que ce qui vous attend pour l'éternité sera pire pour vous que ce que vous vivez aujourd'hui. Non, le chrétien n'est pas appelé à vivre indéfiniment des situations tragiques. La pire situation que vous pouvez vivre aujourd'hui est temporaire et se limite ici-bas, frères et sœurs. Si vous faites partie de ceux qui ne croient pas, la pire situation que vous vivez ici-bas se trouve être la meilleure de tout si on parle de ce qui vous attend. La vraie question demeure la suivante. Où en êtes-vous dans votre relation avec Jésus-Christ qui est passé par tout ce que je viens de décrire, mourant sur la croix pour vos péchés et versant son sang pour vous? C'est la cause de ce qu'il a fait pour nous donner, pour être reçu par lui, pour être accueilli par lui. Il lui appartient pour l'éternité. L'argent où vous allez passer de l'éternité, l'argent où vous allez passer l'éternité, pardon, dépend de votre relation avec Christ. Donc ma question s'adresse à certains d'entre vous ce matin. Connaissez-vous Jésus-Christ personnellement? L'avez-vous véritablement reçu comme votre sauveur personnel? Si vous n'êtes pas certain ce matin, ou certain ce matin de l'avoir reçu, la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas juste une prière. C'est un bouleversement terrible dans notre vie. Non seulement on reçoit le pardon de nos péchés, lorsqu'on le rencontre, il y a quelque chose d'autre qui se passe à la croix. La parole nous dit qu'on est libéré de la puissance que le péché exerce sur nous. On a fini de lutter par nos propres forces. On s'appuie sur une force de Jésus-Christ. Si vous avez rencontré Christ de manière personnelle, vous avez fait cette rencontre unique dans votre vie, vous êtes capable de situer à peu près le moment. Pour les uns, c'est plus marquant que d'autres. Et pour d'autres, c'est plus difficile à faire cause du vécu. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la rencontre avec Jésus-Christ, que vous étiez, que vous soyez, que vous ayez été dans l'Église ou dans le monde, cette rencontre est quand même marquante et bouleversante. Et j'espère que dans ce lieu, ce matin, vous allez sortir d'ici avec la certitude que vous avez fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Que votre espérance dans les choses du monde est terminée et que votre espérance maintenant se place dans les choses du royaume et dans celui qui règne, dans ce royaume qui vous appelle à régner. Je vais t'accourber la tête, à fermer les yeux à ta mère. Père Céleste,